Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'orgue. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles de la musique sacrée qui se rapporte. De temps en temps, j'essaie de faire coller au calendrier avec les temps liturgiques. Aujourd'hui, le carême, vous l'avez sûrement expérimenté depuis mercredi dernier. Nous sommes entrés pendant 40 jours dans le carême qui nous conduit jusqu'à Pâques. C'est un temps particulier de pénitence, de réserve également, mais pas forcément pour la musique. Vous allez le découvrir et je comptais, entre cette semaine et la semaine prochaine, vous présenter un diptyque entre deux œuvres absolument majeures du répertoire choral qui traduisent bien toute l'attente qu'il y a autour du temps du carême. Deux œuvres donc qui vont se répondre. Vous allez entendre, l'une est bien sûr une référence à l'autre, mais nous allons bien sûr commencer par l'original. Il s'agit de l'une des œuvres les plus extraordinaires jamais composées pour la musique chorale. À mon sens, c'est même l'Everest de toute cette musique-là. Et de nombreux musiciens me donnent raison d'ailleurs, c'est du coup un petit peu de chacun, tellement ce chant a, au fil des siècles, établi sa demeure dans le cœur des musiciens et des auditeurs qui avaient le privilège de l'écouter. Je veux bien entendu parler du Miserere de Gregorio Allegri, immense œuvre musicale qui se rapporte donc parfaitement au temps de carême que nous sommes en train de vivre. Avant de vous parler de l'œuvre, je vais d'abord vous parler de son compositeur, Gregorio Allegri, qui est né en 1582 à Rome. Il est mort en février 1652 dans la même ville, et il s'agit d'un prêtre, il était prêtre, chantre d'église, également compositeur. Il a laissé environ une trentaine d'œuvres qui nous sont parvenues, dont la plus célèbre est bien entendu son extraordinaire Miserere, qui a été composé à l'usage exclusif de la chapelle Sixtine pour l'office des ténèbres de la Semaine Sainte. Alors c'est une œuvre absolument gigantesque. Alors déjà par sa taille, elle dure quand même à peu près un quart d'heure quand on la chante, et elle est conçue pour 9 voix a cappella. En fait, ces 9 voix sont réparties entre 2 chœurs, un chœur de 5 voix et un autre chœur de 4 voix, qui chantent en fait des versets qui s'alternent avant de se rejoindre tous les deux pour ce final absolument magique qui renvoie vers le ciel. Vous allez bien vite vous en rendre compte. Alors, ce chant est mythique en fait à plus d'un titre, tellement il est entouré de mystères, voire même de légendes. Vous allez l'entendre, la musique, comme si elle ne suffisait pas elle-même, eh bien tout ce qui est historique autour de cette musique est en fait absolument incroyable. Alors l'œuvre en elle-même, à proprement parler, a un texte qui est tiré du psaume 50 de la Vulgate, qui est un texte absolument fantastique, que vous connaissez très probablement, puisqu'il s'agit des psaumes. « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. » Voilà le premier verset que vous pouvez entendre. Et si je vous récite les deux derniers, parce que je ne vais pas vous réciter tout le psaume 50, vous pouvez vous-même aller le rechercher. « Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. » Alors, tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. En fait, il s'agit d'une supplique qui est faite pour la pureté de l'âme, justement en vue de toute la pénitence. Et c'est là où la musique joue un rôle prépondérant avec le texte, et vous allez entendre quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, c'est une polyphonie qui date du XVIIe siècle, hein, puisque je vous ai donné les dates de naissance et de mort du compositeur. Et en fait, il a adopté un style qui était un petit peu plus ancien, parce que au XVIIe siècle, on commence à être dans la période baroque, et lui, il a adopté un style renaissance. On appelait ça d'ailleurs le style antico, comme si on se rapprochait des antiques. En fait, les antiques, dans la référence, dans la littérature, dans la musique sacrée, les antiques, c'est le style de Palestrina, qui était un grand compositeur de la fin du XVIe siècle et qui était la quintessence de ce que pouvait le chant choral à cette époque-là à Rome. Et donc, ce motet a été interprété pour la première fois le 12 avril 1639 à la chapelle Sixtine. Et en fait, il était chanté lors de la Semaine Sainte, pendant l'Office des Ténèbres, comme premier psaume des Laudes. Donc, c'est quelque chose qui était repris encore et encore, et qui a développé, je vous le disais, une forme de mysticisme quant à cette partition et quant à même son interprétation. Alors, l'interprétation était assez particulière. Alors, il faut savoir que les chœurs, alors le premier chœur à cinq voix qui se développe, qui fait l'une des deux alternances, eh bien, chante une partition qui, elle, est parfaitement écrite. Le deuxième, en revanche, eh bien, avait une tradition qui était celle de l'improvisation, c'est-à-dire qu'il y avait une forme de canevas et en fait les chanteurs brodaient au-dessus, ils se répondaient avec des ornementations baroques qui se développaient, qui rebondissaient sur les murs de la chapelle Sixtine, parfois avec virtuosité, parfois avec beaucoup plus de calme, ce qui fait qu'en fait la véritable partition n'existe pas. D'ailleurs, la première partition n'a jamais été retrouvée et il y avait autour de cette partition une véritable tradition orale. Et en fait, à cause de cette dimension d'improvisation qui était faite tous les matins lors de l'Office des Ténèbres, eh bien, c'était comme si chaque fois on redécouvrait cette œuvre extraordinaire. Et en fait, elle n'a jamais été fixée dans le temps. D'autant plus que la légende dit, alors elle est assez tenace, donc peut-être même vrai, qu'en fait, comme elle était à l'usage exclusif de la chapelle Sixtine, eh bien, tout autre chœur qui l'interpréterait en dehors des murs de la chapelle Sixtine, eh bien, serait forcément excommunié. Donc la légende a perduré un certain temps, et là, une deuxième légende vient se greffer à la première, il s'agit de la transcription faite par Wolfgang Amadeus Mozart, rien que ça, qui l'aurait retranscrite de mémoire après seulement deux auditions, celle du Mercredi Saint et celle du Vendredi Saint. Juste la deuxième audition aurait été faite juste pour apporter quelques corrections mineures. C'est le père de Mozart, Léopold, qui l'écrit dans une lettre à son épouse, Anna Maria. Il lui dit qu'effectivement, seule une fois a été nécessaire pour pouvoir retranscrire la musique. Alors, quand on connaît le talent de Léopold Mozart pour son côté marketing pour ses enfants et pour pouvoir les lancer dans la musique, peut-être qu'on peut douter de la véracité du propos, mais il est vrai que, en fait, aucune autre transcription n'avait été faite avant la venue de Mozart à Rome. Et ensuite, c'est après cela qu'il y a eu effectivement des publications qui ont été faites en dehors du Vatican. Le public était tellement subjugué qu'on venait de l'Europe entière pour entendre ce morceau. Et en fait, il y a eu de très nombreux témoignages, notamment Goethe, Stendhal, Chateaubriand, Ingres, Gounod, Franz Liszt, Berlioz. Enfin, vous voyez, des compositeurs absolument extraordinaires qui sont venus se ressourcer auprès de ce chant absolument magique. Alors, en plus de ça, il y avait l'interprétation qui était spéciale. Je vous parlais du côté un petit peu improvisé. Le rythme également qui était parfois accéléré, parfois ralenti au détour de certains vers, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on entend cette partition, eh bien, on est finalement bien loin de ce que l'on pouvait entendre à l'époque. Il est également à noter qu'il a été composé dans le ton pérégrin, c'est un ton pérégrin qui est vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans la thématique grégorienne et qu'il a aussi l'arrangé dans une catégorie à part puisqu'on était loin des huit tons qui étaient considérés comme les tons antiques, là qui faisaient référence à la musique grecque. Et donc là, c'est quelque chose de tout à fait particulier qui fait que là aussi, cette musique est absolument extraordinaire. Et depuis, bien entendu, toutes ces représentations qui sont faites, puisque bien entendu, à partir du moment où il y a eu publication de l'œuvre, eh bien, elle a pu se diffuser. Nous l'entendons aujourd'hui dans divers usages et dans divers autres cathédrales ou grandes églises qui peuvent se permettre d'avoir deux chœurs qui peuvent chanter cette merveille. C'est notamment assez difficile, hein, parce que c'est un ton un petit peu presque monodique, comme si c'était une grande psalmodie. D'ailleurs, il y a des parties totalement psalmodiées, avec notamment des références entières à la psalmodie grégorienne. Et il faut avoir des bonnes sopranes également, qui doivent taper le contrut bien dans les aigus et qui sont si extraordinaires. Alors d'ailleurs, ce contrut est aujourd'hui un petit peu source de polémique presque, puisqu'il est adopté dans tous les enregistrements que vous pourrez entendre. Néanmoins, on sait qu'à l'époque, il n'existait pas, en tout cas, il n'était jamais fait mention dans les premiers manuscrits qui nous sont revenus après effectivement ces premières publications. Voilà donc pour cette partition absolument magique. Vous voyez, un mythe sur un autre mythe, tout ça en fait pour enrober une musique. Et c'est finalement ça le principal, parce que si on en parle de cette période historique et de tout ce qui a suivi, c'est parce qu'en fait la musique en elle-même est absolument spectaculaire. Je le dis avec d'autant plus d'émotion que ça a été pour moi mon premier coup de cœur vocal. J'étais très jeune, je l'avais écouté pourtant dans la voiture. Ça se prête pas pourtant à ce genre d'écoute. J'avais demandé à ma mère qui m'accompagnait à cette époque-là de s'arrêter sur le bas-côté pour en profiter. Et c'était la première fois que j'entendais ça. Et je crois que comme les autres personnes illustres que j'ai citées avant, ben, j'ai été saisi et touché par cette musique. Vous allez l'entendre avec ses réponses entre les versets. On imagine aussi ce style polychoral qui se répond, et vraiment, il y a une forme de entièreté, de pureté du son qui est absolument extraordinaire et qui en fait vraiment l'une des œuvres les plus extraordinaires jamais composées. Je vous propose donc d'écouter la version avec le chœur d'adultes et les garçons du chœur du New College, qui l'interprète ici absolument magnifiquement. Profitez de cette extraordinaire œuvre qu'est le Miserere de Gregorio Allegri.
Secundum,
merveille parmi les merveilles qu'est ce morceau incroyable de Gregorio Allegri, son Miserere Mei, une œuvre absolument magique qui a toute sa place dans le temps du carême puisqu'il annonce la semaine sainte avec cette supplication de purifier l'âme de celui qui veut se repentir de toutes ses fautes. Un chant absolument merveilleux, sublime, parmi les plus grands composés. C'est véritablement un chef-d'œuvre que je voulais partager avec vous. Et comme je vous le disais, je vous annonce avec un petit peu d'avance ce que l'on va écouter la semaine prochaine. Il s'agit d'un autre Miserere Mei. Alors bien entendu, il y en a eu beaucoup d'autres composés. Je vous parlais de Mozart en début de cette émission. Lui-même a composé, après l'avoir retranscrit, un Miserere Mei qui lui était propre. Et la semaine prochaine, nous écouterons quelque chose de beaucoup plus contemporain, puisqu'il s'agit du Miserere de Macmillan, une composition là aussi absolument majeure, contemporaine, qui fait explicitement référence à ce Miserere Mei d'Allegri. C'est pour ça que je voulais vous le faire découvrir. Et puis, il est toujours bon de réviser ses classiques avec des œuvres aussi extraordinaires qui nous sont parvenues au travers des siècles. Vous l'avez compris, certainement interprétées d'une façon différente de ce que nous entendions, mais qui aujourd'hui encore touchent les cœurs et les âmes. Voilà pour cette beau détour que nous faisons au travers des siècles. J'espère que vous avez passé une belle émission. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine sur Point d'Orgue.